Je vais vous parler de la crise écologique et plus particulièrement de pourquoi il faut renverser le capitalisme pour la régler, pour espérer la régler en tout cas. Donc je commence par la crise écologique, mais en fait je ne vais pas énormément m'attarder là-dessus parce que je partirai du principe que vous en avez tous plus ou moins entendu parler, que si vous êtes anticapitaliste c'est en partie parce que vous êtes conscient qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Donc sur le constat je vais être un peu rapide et je vais surtout m'attarder sur le problème du capitalisme. Donc la crise ou les crises écologiques, c'est à la fois des problèmes qui se posent immédiatement au niveau local, le plus immédiat, comme dans telle ville, que ce soit Pékin ou Paris, la pollution de l'air, que ce soit telle rivière où il y a une industrie implantée juste à côté qui rejette des polluants, ou que ce soit le sol ou une nappe d'eau souterraine qui est polluée par des pesticides ou d'autres polluants. Mais après, mis bout à bout, ça devient un problème global. Et puis il y a des problèmes qui se posent immédiatement à une échelle très large, comme le nucléaire, après Fukushima, pas besoin de faire un long dessin, comme la disparition de nombreuses espèces vivantes, on estime qu'il y en a une centaine par jour qui disparaissent à la louche. On est entré vraiment dans une sixième époque d'extinction massive, sauf que cette fois on sait qui est le responsable, c'est pas des facteurs physico-climatiques, c'est en partie climatique, mais en dernière instance c'est nous, c'est l'humanité. Donc et c'est un problème qui concerne l'humanité indirectement, par exemple les abeilles, leur disparition, ça nous pose à moyen terme des problèmes pour l'agriculture, pour les vergers, etc. Et après, il y a des tonnes d'autres problèmes causés par la disparition des espèces, mais en fait, on connaît encore très mal les répercussions que ça aura au niveau global. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce serait peut-être trop... ça risque d'être trop technique. Un des problèmes que je vais surtout développer, c'est le réchauffement climatique. Parce que c'est sans doute celui qui se pose de façon la plus évidente au niveau global et sur lequel le capitalisme est le plus incapable de réagir de façon flagrante. On a eu très récemment, là, je crois que c'était en avril, le cinquième rapport du GIEC, le groupe d'experts internationaux, qui est le cinquième donc depuis le premier qui était en 1990. Donc le premier, ça a commencé un peu à être l'époque du consensus. Ça y est, plus trop de doutes, malgré quelques climato-sceptiques qui restent dans des coins, qu'il y a un lien direct entre le rejet des gaz à effet de serre et notamment le gaz carbonique rejeté par les industries et les transports et le réchauffement climatique. Et 25 ans après, on constate que non seulement les vœux pieux qui étaient faits de réduire la hausse des gaz à effet de serre n'a pas été tenu, mais en plus ça s'est accéléré cette hausse. Le problème, c'est un réchauffement, mais en plus de ça, c'est pas simplement la température moyenne qui augmente, c'est un risque de dérèglement. C'est-à-dire c'est relatif, c'est à notre échelle. À notre échelle, c'est-à-dire que le climat peut changer à une vitesse trop grande pour que nous, on soit capable de réagir, nous et les espèces vivantes, plus généralement. Et ça peut aussi causer plus de tempêtes et à la fois, par exemple, des extrêmes, plus d'inondations, à la fois plus de sécheresses ailleurs ou dans un temps différent, au même endroit. Plus de maladies aussi qui se répandraient parce que les conditions de température faciliteraient ça. Des problèmes d'agriculture qui deviendraient complètement inadaptés. Donc voilà pour le tableau. Alors très rapidement, une chose qu'on pourrait se demander comme ça de façon un peu automatique, c'est la faute à qui ? Alors il y aurait un raisonnement qui serait en termes de pays par exemple. La Chine depuis 2006 est devenue le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, a dépassé donc les États-Unis. Les discours qui tendraient à dire ben voilà, l'ennemi tout trouvé, c'est un peu simpliste parce que par exemple si on rapporte au nombre d'habitants, la Chine est plus que 71e plus gros émetteur, loin derrière les États-Unis, l'Union Européenne et le Japon. Donc ça correspond toujours globalement à ça en termes de poids dans la pollution au fait qu'on soit les pays les plus les pays impérialistes développés depuis le plus longtemps qui ont le plus émis. Par ailleurs, on pourrait aussi dire que un tiers des émissions de la Chine sont dues aux exportations. Donc cette exportation, est-ce qu'on va dire que le CO2 de ces exportations il est chinois ou est-ce qu'il est plus occidental? Est-ce qu'il est ce serait assez arbitraire de les compter comme juste chinois. Et par ailleurs, si on en prend encore plus de recul, les trois quarts de l'excès de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, les trois quarts sont dus aux vieux pays capitalistes, donc États-Unis, Europe principalement. en notre exemple que le réchauffement, ce serait assez cynique aussi de pointer du doigt par exemple l'Inde ou la Côte d'Ivoire en leur disant au niveau gestion des déchets, vous pourriez mieux faire hein, quand on voit les poubelles que vous avez. Enfin, c'est évident que c'est pas au niveau de leur pays que se joue la décision de la gestion des déchets. C'est justement parce que ces pays ont moins de moyens d'imposer des normes de protection de leur propre population et de leur environnement que c'est moins cher pour les patrons des multinationales d'aller déverser là-bas leurs déchets. Donc c'est évident qu'en fait c'est le capitalisme mondial qui leur assigne un rôle de poubelle du capitalisme. Et par exemple, un exemple assez flagrant, c'est en 2006, il y a eu une révolte dans la capitale de la Côte d'Ivoire contre une intoxication qui était due à des déchets toxiques qui avaient été amenés en Côte d'Ivoire par un vieux bateau qui avait un pavillon panaméen et qui était en fait la propriété d'armateurs grecs et qui était affrété par une société française dont le siège était en Suisse. Bon, voilà, enfin, on voit bien que c'est le problème mondial du capitalisme et de ses plus principaux représentants que sont les multinationales des pays impérialistes. Et par ailleurs, bon, si dans chaque pays on se demande quelle classe, qui pollue le plus, parce qu'il y a tout un discours un peu qui tendrait à dire... Bon, on sait bien que c'est les plus sales, ceux qui font moins gaffe, tout ça, c'est les plus pauvres. Faut quand même prendre du recul par rapport à ça, parce que déjà, l'empreinte écologique, en fait, augmente avec le revenu, contrairement à une idée reçue. Les plus riches consommeraient à peu près deux fois plus de ressources que les plus pauvres. Si on fait, par exemple, l'empreinte écologique, il y a des études canadiennes qui ont montré ça. En France, j'ai vu une étude sur le bilan carbone, c'est plus spécifique que l'empreinte écologique, mais ça montrait que... alors, il y avait une très très légère différence entre une profession intermédiaire, je ne sais pas, par exemple, des professeurs, et un ouvrier ou employé. Il y avait une très légère... Ils consommaient légèrement moins, mais par exemple, l'écart avec un cadre supérieur, par exemple, n'a rien à voir. Le cadre supérieur consomme beaucoup plus, tout simplement parce qu'il a beaucoup plus de moyens, en fait, de consommer. Donc, il a beaucoup plus de moyens de prendre l'avion. Et quand on prend l'avion régulièrement, qu'importe qu'on fasse attention à acheter de temps en temps un produit qui consomme moins, genre un électroménager un peu plus propre, on a un bilan qui explose. Et par ailleurs, on entend souvent des discours du genre « un Français consomme tant de terrain de foot équivalent en empreinte écologique ». Bon, mais de quel Français on parle ? De celui qui vit dans un 20 mètres carrés à Paris, ou de celui comme Bernard Arnault qui a un hôtel particulier de 100 fois 20 mètres carrés à Paris, ou d'un actionnaire de Vivendi, s'appelle monsieur Jean-René Fourtou, qui a une villa au Maroc avec 13 hectares de terrain, une piscine chauffée de 200 mètres carrés et 12 domestiques. Donc là, quand on parle d'un Français, le problème c'est que ça masque aussi ça, ça masque aussi les responsabilités différenciées. Et les responsabilités différenciées qui se retrouvent au niveau des pays, au niveau des populations. Il y a 7% de la population mondiale qui sont responsables de la moitié des émissions, et pendant que l'autre moitié, la moitié des plus pauvres, n'émet que 7%. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Et puis par ailleurs, si on parle en termes d'entreprise, même si bon, tout ça, c'est discutable, hein, parce que l'entreprise, certains vont voir le côté consommation, vont voir le côté c'est celui qui achète le produit, le consommateur qui est responsable. Mais bon, si on parle en termes de maîtrise de la production, qui contrôle telle production, on se rend compte que 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sont contrôlées par 90 entreprises au niveau mondial. 90 seulement. Pour nous, c'est en fait l'intérêt de montrer ça, c'est montrer que le principal levier, la principale marge de manœuvre pour faire des transformations radicales dans la société au niveau écologique, c'est de s'en prendre à ces 90 entreprises et plus largement. Mais en fait, plus simplement que simplement parler de responsabilité au niveau de tel groupe d'individus, j'ai essayé plutôt de montrer en quoi c'est systémique, en quoi c'est des lois du capitalisme qui se heurtent sans arrêt aux nécessités qu'il faudrait prendre pour atténuer les crises écologiques en espérant l'avoir se résoudre le plus vite possible. En gros, bon, déjà, dire que si de façon systémique le capitalisme n'est pas écologique, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver un capitaliste dans un secteur qui ne va pas avoir son intérêt particulier, qui va coïncider avec l'écologie. Mais et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des mesures prises par certains gouvernements qui ne vont pas dans le bon sens. Ce serait aveugle de nier ça, parce que je pourrais donner des exemples. Ce qui est évident, c'est que, voilà, quand je prenais l'exemple des promesses de réduire les gaz à effet de serre au niveau mondial, ce n'est pas tenu, ça accélère au contraire. Donc il y a bien un problème systémique et ça vient principalement du problème que les capitalistes sont en concurrence entre eux pour faire du profit, pour résumer la loi du capitalisme, on va dire, et après je vais décliner ça. Alors, pour commencer par ce qui est peut-être le plus évident, qu'on connaît tous, c'est la publicité. Alors, pour parler du gaspillage de papier, de colle, ou même de consommation électrique, parce que maintenant on a des panneaux électriques qui fonctionnent en permanence dans les métros ou ailleurs, pour parler rien que de ça, sans parler même de l'aspect idéologique, c'est malheureusement assez difficile à trouver, parce que bizarrement il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse hein, à vouloir évaluer ça. Mais par exemple, rien qu'en région parisienne, les panneaux éclairés représenteraient la consommation électrique de plus de 100 000 personnes. Par ailleurs, si on regarde l'argent que ça coûte, les capitalistes en France mettent environ 30 milliards par an d'euros dans la publicité. C'est plus que le budget de la justice et de l'enseignement supérieur recherche cumulé. Donc c'est intéressant, ça montre que cette somme de choix privés qui sont faits pour leur propre intérêt de mettre dans la publicité, c'est supérieur à des choses qu'on considère quand même un peu plus importantes du point de vue de l'intérêt de nos intérêts. Et puis voilà, bon, après moi, j'étais halluciné, je suis tombé sur, vous savez, les panneaux qui défilent, où ça tourne, ça déroule à l'intérieur, et c'est un panneau publicitaire qui est remplacé par un autre, etc., et ça tourne. Et bien, une fois j'étais là, je voyais un panneau qui tourne, et l'image qui vient à la suite, c'était la même que celle qui venait de partir. Et ça, enfin, ce que ça montre, en fait, c'est que c'est tellement absurde qu'en fait, il y a des sociétés publicitaires qui, en quelques clics, peuvent commander leur espace publicitaire. Et c'est même bureaucratique chez eux, quoi. En fait, ils se rendent pas compte des fois que, au gré de leurs commandes passées un peu aléatoirement en fonction du marché, ils se retrouvent des fois à voir ça, quoi, avoir la même pub deux fois de suite. Donc on a un moteur d'ailleurs qui tourne pour ça, quoi. Pour parler un peu plus généralement, il y a tout le problème aussi des économies qui sont faites par les capitalistes, par les entreprises. Pour atténuer des mesures de sécurité ou ne pas prendre des mesures pour empêcher des pollutions, alors que ça pourrait être fait. C'est une banalité maintenant de dire que les industriels font du profit en réduisant la sécurité ou les risques pour l'environnement. Mais en fait, c'est pire que ça. Parfois, c'est simplement un calcul, en toute connaissance de cause, de tolérer un risque parfaitement connu. Par exemple, si on prend la pollution des mers par les navires pétroliers ou les marées noires, alors les accidents qui sont spectaculaires de marées noires, c'est dû, on le sait, à des navires qui sont des navires poubelles, comme on dit, qui sont sous-entretenus, avec des marins qui sont sous-effectifs et qui sont mis sous pression pour foncer tout droit alors qu'il y a une tempête et qu'ils pourraient s'arrêter, faire une pause, mais une journée perdue, c'est tant de centaines d'euros perdus, etc. Mais en fait, c'est que le sommet de l'iceberg. Disons que ça fait à peu près 50-50. Disons qu'il y a à peu près l'autre moitié de la quantité de pétrole qui se retrouve à la mer, c'est totalement volontaire. C'est pas des accidents de bateau, c'est des dégazages sauvages parce qu'en fait, c'est simple. La méthode propre qui serait de pas faire ça, ce serait d'attendre d'arriver dans le port et de nettoyer sa cuve. Mais ça, c'est un service payant. Donc il y a des travailleurs qui vont le faire, il faudra les payer, ça les fait un peu chier. À la place de ça, c'est totalement gratuit de balancer ça à la mer. C'est gratuit du point de vue du capitaliste qui fait ça. C'est pas gratuit pour la société, mais on le paiera d'une façon ou d'une autre, mais pour eux, c'est pas gratuit. Pour eux, c'est gratuit. L'exemple du nucléaire, malheureusement, c'est tristement banal. On sait très bien que les capitalistes ont poussé l'absurdité au Japon à construire des centrales nucléaires sur une zone qui est notoirement sismique. Alors déjà que nous, on est pour la sortie du nucléaire parce qu'on considère que les risques sont trop grands de toute façon et qu'on a des alternatives. Mais le capitalisme, au-delà de ça, il nous rajoute un risque supplémentaire, en plus de la gestion des déchets qui pose des problèmes pour les générations futures. Puis par ailleurs, il y a un autre problème, c'est le sous-investissement général dans certaines branches qui en fait mériterait d'être... par exemple des machines qui doivent être réparées parce que en fin de vie elles polluent plus, etc. Et c'est pas fait parce que les capitalistes en fait préfèrent investir ailleurs leur capital, notamment dans les marchés financiers, etc. Et le sous-investissement, ça a des conséquences concrètes. Par exemple, aux États-Unis, il y a plein de raffineries pétrolières qui actuellement ont plus de 70 ans et qui ne sont pas rénovées. Et celle qui avait explosé au Texas en 2005, c'était Horizon quelque chose, je sais plus comment elle s'appelle. Elle était dans ce cas-là, elle était datée de plus de 70 ans, elle était complètement obsolète, elle n'était pas entretenue. Donc c'est aussi ça les conséquences, c'est que non seulement voilà, le pétrole, ils ne veulent pas trop en sortir, mais en plus, ils le font de façon de plus en plus crade. Quoi. Bon, le problème des énergies renouvelables aussi, c'est aussi qu'on est dans une période de capitalisme où ce sous-investissement fait que même si certains capitalistes pourraient avoir intérêt à, voilà, à faire une branche au moins du capitalisme vert, à essayer d'innover là-dedans, bah, très peu le font parce que les géants de l'énergie aujourd'hui, ils sont à peu près 25 qui contrôlent le gaz, le pétrole et le charbon, mais ils préfèrent de loin s'intéresser à prospecter de nouveaux gisements pétroliers ou à essayer de transformer le charbon en soi-disant énergie propre en injectant le carbone sous la terre, etc. Ils préfèrent innover là-dedans, enfin ils préfèrent mettre de l'argent dans la recherche là-dedans que essayer de développer une technologie plus propre, plus sobre qui serait renouvelable. Donc c'est malheureusement un bête calcul, hein. Une énergie qui, par exemple, exploiter directement le soleil et le transformer en électricité, bah, ça les intéresse beaucoup moins qu'utiliser des énergies fossiles qui viennent aussi du soleil, mais que la nature a travaillé en quelque sorte pour concentrer leur énergie sous forme de charbon et après qu'il y a un pouvoir de combustion plus élevé que même le bois ou un matériau qui est plus directement renouvelable. Donc évidemment, ça les intéresse beaucoup plus de faire quelque part une économie sur la technologie en brûlant directement quelque chose qui est disponible. Et pour ça, bon, ils sont prêts à mettre un peu plus d'argent au fur et à mesure que le prix monte pour exploiter plus, voilà, y compris maintenant du pétrole qui est en Antarctique et maintenant il est accessible grâce au réchauffement climatique. Donc on voit tout le paradoxe de la chose. Alors, un autre aspect de cette concurrence capitaliste, c'est le flux tendu et la sous-traitance. Par exemple, ces dernières décennies, il y a une tendance à, donc, déjà d'une part, un changement de fond dans le capitalisme qui fait que les marchés sont plus volatiles qu'avant. La spéculation aussi joue beaucoup sur les matières premières, sur l'offre et la demande en dernière analyse. Et en fait, les transports eux-mêmes, les transports de marchandises sont vachement dépendants de la bourse, des fluctuations de la bourse. Et en fait, ça a poussé les capitalistes à délaisser les transports en gros et à favoriser le flux tendu. Donc, c'est-à-dire, c'est la notion d'avoir le moins de stock possible, d'avoir juste ce qu'il faut et le vendre. Et dès qu'on en a besoin, on passe une commande et ça va générer un transport sur mesure, un camion qui va venir, etc. Et ça, c'est au niveau général. Et ça, c'est une trame de fond qui favorise le transport par camion plutôt que par train ou fluvial. Et c'est ce qui fait, par exemple, que ces 30 dernières années en Europe, on a chaque année construit 1200 km de route en plus et supprimé, au contraire, 600 km de lignes de chemin de fer. Donc, et ça, les gouvernements ont beau faire de temps en temps des grandes déclarations sur « oui, ce serait bien quand même de favoriser le fret ferroviaire, machin, c'est quand même mieux, etc. » mais la tendance de fond, c'est le contraire de ça. Et par ailleurs, ce flux tendu-là, il est imposé aux travailleurs et aux travailleuses eux-mêmes. Par exemple, au lieu d'avoir quelqu'un embauché pour nettoyer ou réparer des machines, par exemple, une machine, parfois c'est en panne, parfois ça l'est pas. Alors, embaucher quelqu'un à temps plein pour être technicien réparateur, en fait, certains ont fait le calcul que ça leur plaisait pas trop. Ils préfèrent externaliser, ils préfèrent sous-traiter ça à une entreprise spécialisée qui va venir au besoin, quoi. Si on va réparer, y compris ça c'est valable aussi pour le nettoyage. Avant, dans beaucoup de boîtes industrielles, il y avait le ménage qui était fait en interne et après ça a été externalisé. Aujourd'hui, les boîtes de sous-traitance dans le nettoyage, c'est un gros secteur capitaliste parmi d'autres. Et ça fait aussi qu'il y a beaucoup de déplacements plus à l'échelle micro, quoi. Il y a beaucoup plus de petites camionnettes de travailleurs qui passent leur journée à se déplacer au lieu d'une tendance à faire un interne, ce qui est moins rentable et ce qui est plus écolo. Et par ailleurs, bon, je vous fais pas un tableau sur la précarisation du travail, parce que si donc on adapte un pile en fonction du marché, évidemment que les boîtes qui font ça, elles ont tendance à elles-mêmes faire pression sur leurs salariés sous forme de contrat d'intérimaire ou de temps partiel pour limiter la casse quand elles n'ont pas de demande. Et les délocalisations, en fait, c'est un peu l'extension de ce phénomène. C'est un peu la généralisation. c'est un peu une, sous un certain côté, c'est un peu une externalisation plus loin. C'est une prolongation de ce mouvement. Il y a des étapes entières de la production qui sont maintenant mises dans un autre pays parce que là-bas les salaires sont plus faibles, donc on connaît la chanson, c'est plus rentable de produire là-bas certains types de produits qui sont plus gourmands en travail humain. Et donc aujourd'hui c'est assez connu, on a des chiffres qui tournent là-dessus sur le fait que beaucoup de marchandises font plusieurs fois le tour de la terre avant d'arriver dans les supermarchés. Le jean par exemple, en moyenne, il fait jusqu'à 65 000 km. Avant d'être vendu. Alors il ne s'agit pas de dire que tout, que la norme, le truc normal et sain, c'est que tout soit 100% local, parce que par exemple le coton, d'accord, c'est un fait que le coton n'est pas produit sous toutes les latitudes, voilà, il y a des conditions qu'il faut qu'il pousse à un certain endroit. Mais par contre, le fait que le jean, enfin que le coton soit filé en Turquie, qu'il soit ensuite déplacé pour être teint en Bulgarie, puis que la toile soit tissée à Taïwan, et que le jean soit finalement assemblé avec des boutons en Tunisie, et puis vendu en France, cet éclatement de la chaîne de production, lui, il n'a rien d'objectif et de rationnel. C'est purement de la logique marchande capitaliste qui est derrière ça. Et donc c'est une logique qui est absurde pour l'environnement, qui est absurde pour les travailleurs, parce qu'en fait, au niveau global, ça fait qu'il y a un surcoût au niveau de transport en temps de travail. Finalement, on pourrait les marins et les routiers qui font ces déplacements, ils seraient peut-être mieux dans une société socialiste à gagner ce temps-là en temps libre. Mais dans la société actuelle, c'est totalement logique, c'est rentable, et voilà, on ne fera pas démordre les capitalistes que cette organisation est la meilleure possible. Et si on fait le constat, en fait, que en fait, depuis les années 90, on parle beaucoup de l'accélération de la mondialisation. Bon, en fait, c'est qu'une accélération d'un processus qui est valable depuis très longtemps. Mais ce qui est particulièrement flagrant depuis les années 90, c'est qu'il y a une accélération des échanges, à la fois des produits, des exportations, des importations, dans tous les sens. Et paradoxalement, en fait, c'est une période où si on met en parallèle la courbe de la croissance, elle a augmenté moins vite. Donc, ce que ça montre aussi, ça, c'est que rien que pour produire une quantité donnée de marchandises, l'évolution du capitalisme ces dernières années, ça a été de le faire en faisant plus de transport. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient besoin de plus s'agiter pour produire la même quantité. Et ça montre aussi que le niveau de pollution, il dépend pas seulement, c'est pas seulement une fonction du taux de croissance. C'est en plus de ça, le capitalisme rajoute des facteurs comme toutes ces tendances aux délocalisations et aux sous-traitances qui favorisent qui aggravent la pollution pour ce même niveau de croissance. Et donc le constat qu'on fait, après on peut multiplier les exemples, mais ce qu'on a en face de nous, c'est une production et des transports et des échanges qui sont totalement désordonnés, qui répondent à aucune logique vraiment rationnelle, quoi. Par exemple, pour chaque branche de production, il y a plusieurs concurrents qui produisent le même produit, mais chacun dans leur pays ou chacun dans leur région, et qui chacun essaie de prouver que ce sont produits le meilleur. Et donc, quelque part, il y a beaucoup de choses qui sont en double. On pourrait faire des économies d'échelle, rassembler certains trucs. Ben non, il y a des concurrents, c'est comme ça. Et chacun a ses locaux, fait sa publicité, chacun se bat pour écraser les autres, etc. Et par exemple, si on regarde... il y a 60 000 tonnes de poulets qui sont vendues tous les ans par les Pays-Bas au Royaume-Uni, et il y a 30 000 tonnes qui sont vendues par le Royaume-Uni aux Pays-Bas. Enfin, et voilà, c'est bon, peut-être qu'il y a un poulet qui est meilleur que l'autre, mais à mon avis, dans l'ensemble, on a la même merde. Donc c'est quand même un truc qui n'a pas de sens, quoi. Les États-Unis, pour en donner un autre exemple, c'est pas un pays où il manque de bois, hein, mais ils importent des allumettes du Japon. Voilà, c'est pas un pays où il y a beaucoup de bois, mais il se trouve que le Japon exploite aussi beaucoup de façon impérialiste l'Indonésie qui est à côté et qui a beaucoup de bois, et on sait où il y a des problèmes de déforestation d'ailleurs. Et le Japon importe des baguettes des États-Unis, donc évidemment qu'il y a des usines de baguettes au Japon, quoi. Le problème n'est pas là, c'est qu'à un moment donné ils ont trouvé moins cher, donc il y a des capitalistes qui importent des baguettes. Un autre exemple, c'est le fameux tunnel, l'accident dans le tunnel du Mont Blanc qui avait eu en 99. Ça avait permis, entre autres choses, au-delà passer les drames humains, il y avait aussi d'autres constats qui ont été faits, notamment le fait que parmi les poids lourds qui s'étaient percutés, il y en avait un qui ramenait de l'Europe du Nord des pommes de terre qui s'étaient faites transformer en chips en Italie. Donc c'est un aller-retour juste pour aller faire exploiter des travailleurs italiens. C'était peu rentable aussi. Et il y avait aussi du PQ qui était transporté dans les deux sens. Donc voilà, ça a besoin de traverser le tunnel du Mont Blanc. Là aussi, ça répond à aucune logique. On peut se dire que quelque part, il y a un facteur, c'est la concentration des entreprises en plus gros monopoles, etc. Surtout dans les domaines les plus high-tech, on peut se dire que ça limite un peu la casse pour certains produits. Justement, dans ces produits-là, qui sont aussi plus polluants, il y a moins de concurrents dans ces secteurs-là. Mais n'empêche qu'ils arrivent quand même à faire deux sociétés concurrentes pour les satellites privés. Il y a deux sociétés, une qui s'appelle Iridium et une autre qui s'appelle Globalstar, qui ont envoyé chacune des dizaines de satellites pour assurer deux couvertures du globe concurrentes. Donc ça sert pour des GPS, des systèmes comme ça. Et voilà, ils sont arrivés. Je ne fais pas un tableau sur le kérosène qu'il faut pour faire décoller et mettre en orbite des satellites. Donc malgré les contre-tendances qu'il peut y avoir, on assiste quand même à un gâchis énorme au niveau mondial. Alors pour parler d'autres exemples, d'autres effets pervers, on va dire, de système, il y a l'obsolescence, on connaît bien. Alors il y a une controverse pour savoir est-ce qu'on peut parler d'obsolescence volontaire. Je vais pas trop développer, mais bon, si on prend l'exemple par exemple des ampoules à incandescence, d'après ce que je sais, c'est un exemple bidon, le fameux exemple de dire ils ont volontairement réduit la durée de vie des ampoules, etc. Pour moi, c'est bidon, ça. C'est un peu la théorie du complot. Mais par contre, il y a une obsolescence, de toute façon, indépendamment de ça, qui est généralisée et qui est systémique, en fait, qui n'est pas tellement due à un choix délibéré, mais qui est due à un tas de facteurs du genre limiter au minimum l'étude faite dans tel produit, donc pour limiter le temps que les ingénieurs y passent, ou limiter même les produits qu'on y met, donc mettre le moins de matière possible, donc ça, l'usure, la moindre usure, ça pète, etc. Mais ça réduit les coûts. Et donc le constat, juste pour parler du constat, c'est que seulement 20% des appareils qui tombent en panne sont réparés. Donc l'obsolescence, elle est là de toute façon, c'est au niveau du constat, c'est imparable. Il y a parmi les appareils électriques ou électroniques qui sont jetés, on recycle une certaine partie, mais on pourrait se dire que le plus logique, c'est quand ça marche encore, de chercher à les réemployer directement sans faire de la destruction et reconstruction de matière. Et ça, le réemploi et la réutilisation, même la réutilisation simplement de pièces dans ces machines, ça représente 1% du taux global, quoi. Donc c'est rien, et c'est largement pas favorisé dans le cadre du système capitaliste. Donc pour quelques arguments sur les causes de ça, ça peut être déjà le fait qu'il y a de multiples produits qui sont en concurrence entre eux, et les simples conséquences de ça, c'est que voilà, au niveau des câbles électroniques, vous avez tous des exemples de câbles incompatibles entre eux, surtout en fait depuis les années 70. On ne peut pas imaginer la quantité de matériel électronique qui a été jeté depuis les années 70, parce que tout simplement c'est le capitalisme qui a tâtonné dans l'industrie de l'informatique et de l'électronique, et qui a mis au point chacun dans son coin en concurrence de sa propre standard, en essayant de chacun d'imposer aux autres pour qu'il soit hégémonique. Et il y en a plein qui ont perdu, et du coup tout ça c'est du gâchis. Et bon, là aussi on retrouve la contre-tendance qui fait que quand il y en a un qui s'impose, oui, ça limite un peu le gâchis, mais après il y a toujours un nouveau secteur capitaliste qui démarre, et en fait c'est toujours pire. Et par ailleurs, il y a un autre aspect, c'est que les capitalistes sont fans des brevets, et donc gardent jalousement le secret de fabrication de leurs propres produits, ce qui limite considérablement en fait la capacité à réparer ses propres produits. Il y a très peu de connaissances publiques du fonctionnement des produits qu'on utilise, et donc y compris les matériels, les éventuels petits commerçants qui voudraient faire de la réparation, tout ça, ils sont de plus en plus emmerdés parce qu'ils sont de moins en moins capables de réparer les produits électroniques contemporains. Et voilà, par ailleurs, la tendance au marketing fait que les capitalistes eux-mêmes sont poussés à l'obsolescence, à rendre obsolescents leurs propres produits à eux. Et par ailleurs, voilà, ce problème qu'on retrouve au niveau de l'incompatibilité des produits ou du non-recyclage, on le retrouve aussi, par exemple, justement, je voulais parler du recyclage. Il y a des matières qui sont recyclables plus ou moins facilement, mais par exemple, les plastiques aujourd'hui qui grouillent dans tous les produits qu'on peut acheter, ils sont très peu recyclés. Pas parce que c'est une matière qui est impossible à recycler, mais c'est qu'en fait, c'est derrière le mot plastique, il y a plein de plastiques différents. Et il y a chaque capitaliste qui a mis son plastique avec sa composition chimique particulière. Et en fait, quand on se retrouve dans une déchetterie avec des tas de déchets plastiques, personne n'est vraiment capable de dire « je vais faire un tas, je vais trier ce plastique-là, ce plastique-là ». Et on se retrouve au final avec 80% du plastique qui est fini en décharge, donc enterré. Et l'autre partie, c'est pas beaucoup plus glorieux. Il y a une partie qui est simplement brûlée pour alimenter des chaudières, etc. Ils appellent ça la valorisation énergétique. Ça fait mieux que de dire décharge, ou incinération, je veux dire. Mais c'est l'incinération juste avec ils récupèrent un peu de chaleur. Donc, pour passer sur un autre chapitre. Pour aborder plutôt face à ça, quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager, parce que pas besoin d'être révolutionnaire en fait pour quand on a ce constat-là, se dire mais quelles solutions on peut envisager. Il y a plein d'écologistes, de tonnes de courants différents qui cherchent à proposer leurs solutions. Ça va du plus capitaliste jusqu'au plus révolutionnaire. Et donc, pour les passer très rapidement en revue. Déjà, pour évacuer celui qui va nous faire le plus rire, quoi, mais c'est la tendance à. Enfin, le discours des libéraux pur sucre, et qui était vachement en vogue dans les années 90, surtout époque de triomphe du capitalisme, époque où le stalinisme s'effondre, donc le capitalisme paraît seul horizon de l'humanité, etc. Et certains allaient jusqu'à dire. Ouais, bon, maintenant on parle du problème écologique qui commence à émerger, mais en fait, même ça, vous inquiétez pas, ça va être réglé par le marché lui-même. Il faut surtout pas essayer d'intervenir, ce serait en fait pire que le mal. En fait, le problème, c'est qu'il y a encore trop de monopoles publics, c'était vraiment toute la tendance. C'est aussi l'époque où émerge le mouvement intermondialiste en contradiction avec cette pensée-là, mais. Tout discours même qui disait qu'il y a jusqu'à dire c'est parce qu'il y a encore trop de monopole public qu'il y a trop de pollution. Si on libéralise, les capitalistes seront plus en concurrence et donc ils feront émerger les meilleures innovations qui vont permettre de régler le problème écologique, de nous trouver des énergies renouvelables et de les démocratiser, etc. Il y a même eu le sommet de ça, on va dire, c'était en 97, il y avait eu un projet d'accord multilatéral sur l'investissement, AMI, qui prévoyait, entre autres, hein, il y a plein de saloperies, mais ça prévoyait, entre autres, que les multinationales puissent se faire indemniser par les États si un État avait une idée un peu stupide de vouloir faire des lois environnementales qui pourraient nuire au profit de certaines multinationales. Donc, en gros, une multinationale aurait eu le droit de faire un procès à tel ou tel État parce que, ta loi, si je l'applique, ça me fait perdre des sous, donc... Dans tel autre pays, j'ai pas ce problème-là, donc tu poses un problème de la concurrence, donc voilà. Ça avait été repoussé par les mobilisations, mais c'est toujours quelque chose qui peut revenir au galop, notamment sous la forme du traité transatlantique, hein, bon, je développe pas. Bon, mais globalement, aujourd'hui, il y a quand même un consensus, il n'y a pas grand monde qui ose affirmer qu'il suffit de rien faire pour que les problèmes écologiques se règlent tout seuls. La question, c'est après, ça va être plus un débat sur le niveau d'intervention de l'État, sous quelle forme, etc., entre les écolos plus ou moins réformistes. Donc déjà, il y a une reconnaissance globale, tout le monde s'accorde à dire que la pollution ne sera jamais prise en compte par les capitalistes tant qu'elle sera pour eux un truc totalement extérieur. C'est comme l'exemple du dégazage sauvage par les pétroliers, tant que ça leur coûte totalement rien de dégazer... Pourquoi ils ne le feraient pas ? Je veux dire, c'est purement logique pour eux. Donc, il y a un débat sur... Il y a des tentatives, je veux dire, d'internaliser les coûts, comme ils disent, de leur faire payer à eux, de monétiser le prix des dégâts écologiques pour qu'ils se rendent compte et pour qu'ils se responsabilisent avec tout ce genre de discours. Ça paraît du bon sens dans une certaine mesure. Par exemple, c'est évident qu'il faut... si déjà on peut arriver à ce que les pétroliers qui dégazent aient des amendes, c'est bien. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que souvent, il y en a beaucoup pour qui c'est... certains préfèrent se dire, alors j'ai tant de probabilités de me faire prendre une amende, même si l'amende est chère, en fait, sur le long terme, c'est plus rentable de dégager quand même. Enfin, on rentre dans un calcul comme ça. Donc, le problème, c'est que ces méthodes qui se veulent régulées par le marché, on voit leurs limites aussi. Alors, c'est ça que je vais développer. Par exemple, l'Union européenne, un de ses credos sur le créneau écologique ces dernières années, c'est de développer le marché des droits à polluer. C'est-à-dire vraiment pousser une logique libérale jusqu'au bout en disant on va donner au départ des quotas de CO2 que les entreprises peuvent rejeter et si elles veulent, elles se rachètent entre eux. Si toi t'estimes que tu as besoin d'en rejeter plus, tu vas acheter à l'entreprise qui a besoin d'en rejeter moins, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les plus grosses entreprises ont accumulé d'énormes quotas de CO2 en les rachetant partout autour d'elles. Et en fait aussi parce qu'elles ont plein de sites confirmés dans les pays occidentaux et du coup elles sont allées les ouvrir dans des pays où elles ne sont pas soumises à ça et aujourd'hui en fait il y a des estimations qui disent qu'il faudrait un prix 10 fois supérieur à ce que c'est actuellement le quota, le prix du quota de CO2 pour que ça ait le moindre début d'effet. Donc pour l'instant ça ne sert strictement à rien à part avoir créé un nouveau marché pour les plus gros capitalistes. Et donc, sur une autre logique, enfin, cette logique aussi, au fond, c'est de vouloir dissuader ou inciter certains comportements, parce que des fois, c'est aussi surinciter, c'est la logique du bonus-malus, quoi. Et parfois, c'est simplement des gros prétextes, hein. Il faut voir que des fois, ils sont forts pour justifier de façon idéologique un discours par l'écologie, alors que c'est juste des intérêts économiques. Par exemple, je crois que c'était sous Sarkozy, juste à la fin de son mandat, il avait fait une prime à la casse. Pour les voitures, en disant les vieilles voitures vont être remplacées par des voitures plus écologiques, donc ça sera bien. Hein. Alors, on sait bien que c'était fait surtout pour stimuler les ventes de Renault et PSA, quoi, nos fleurons capitalistes. Et en fait, il y a des. Je connais quelqu'un qui travaille dans le ministère de l'écologie et qui a fait une étude là-dessus, un interne hein, qui n'est pas publié, sur le bilan écologique de cette mesure. En fait, il est nul, il est très mauvais. Économiquement, oui, ça a permis de faire quelques ventes de voitures, mais écologiquement, le discours n'était qu'un écran de fumée, quoi. Et puis, par ailleurs, un autre aspect que nous, on doit dénoncer aussi, c'est que beaucoup de ces mesures qui visent à inciter à faire des bonus-malus, souvent ont un aspect antisocial, et un aspect qui, de la façon dont c'est posé, crée une contradiction entre le social et l'écologie. Par exemple, les taxes carbone. Si on augmente ces taxes sur le pétrole, dans le cadre de la société actuelle, l'effet c'est quoi? C'est que pour quelqu'un qui a un jet privé ou un gros 4x4, c'est peanuts quoi, dans leur budget, ils ne voient même pas passer la taxe carbone. Par contre, un automobiliste, smicard qui est dépendant de sa bagnole pour se rendre dans une zone industrielle où il n'y a pas de transport en commun, etc. Lui, il est juste pris à la gorge par ça. Enfin, donc c'est l'effet pervers de ce genre de mesures en fait qui peut se poser dans le cadre du système capitaliste. Et c'est aussi plus récemment sur le mouvement qu'il y avait eu en Bretagne sur les conséquences de la taxe sur les poids lourds. C'est exactement la même logique quoi, derrière. C'est que c'est payé en bout de chaîne par soit les consommateurs, soit par les plus petites entreprises qui le voient plus passer que les grosses. Et puis donc, en fait, pour résumer aussi, c'est que pour que l'effet puisse être réel sur l'économie, il faudrait que le niveau de taxation soit assez élevé, soit pas symbolique, mais qu'il soit élevé. Mais du coup, ça voudrait dire que l'effet social aussi serait pire. Et l'effet, du coup, se traduit pas seulement par un effet social, c'est aussi que ça a un effet économique, ça peut pénaliser certaines entreprises. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que les gouvernements, en fait, s'ils prennent des mesures dans ce sens-là, ben, ils les feront symboliques, ils les feront pas justement à un niveau élevé. Donc on est pris dans une contradiction aussi au niveau des politiciens, qui eux-mêmes ne veulent pas faire de mesures impopulaires, et puis à la fois qui auraient des effets pervers sur leur propre économie. Alors, au-delà de la logique d'inciter ou dissuader, on peut se dire, là on passe aux interdictions franches et aux obligations, ce genre de logique. Attention, on arrive au niveau soviétique là. Mais déjà, ça se fait partiellement. Pour les pollutions les plus flagrantes, il y a des interdictions. Par exemple, les gaz CFC qui détruisent la couche d'ozone, ça a été assez impressionnant. À peu près au début, quand on a commencé à comprendre comment ça marchait, quels étaient les gaz les plus responsables. En 1987, il y avait eu une grande conférence qui avait interdit ça, et ça avait été assez rapide. Bon, il faut dire que en fait, l'industrie avait déjà des produits de remplacement, et que donc ça leur dérangeait pas trop de remplacer. Donc en fait, ça montre que c'est un exemple, et c'est justement l'exception plutôt que la règle. Et au contraire, quand c'est difficile, quand les industriels sont emmerdés parce qu'en fait leur produit il est super pas cher, et puis remplacer ce serait cher, et le produit de remplacement soit il n'y en a pas, soit il est super plus cher, ça les dérange. Alors là, ils essayent de gagner du temps. Typiquement, ils font du lobbying, ils financent des études qui font des contre-feux pour dire ah non, en fait on sait pas, il faut encore réfléchir plus parce qu'on n'est pas sûr que les études elles soient sérieuses, qu'on les a faites avant. Enfin, il y a du lobbying pour freiner. Ça a d'ailleurs été beaucoup fait pour les études sur le climat. Hein. Ça a été freiné beaucoup par rapport à ce qu'on aurait pu à l'époque où on aurait pu avoir un consensus scientifique. Et donc, un autre exemple, c'est par exemple, il y a le bisphénol A, qui est un produit qui est de plus en plus avéré, qui s'avère être un perturbateur endocrinien, donc qui a des effets sur la santé et qui d'ailleurs a des effets pour l'environnement aussi. Qui est présent dans les tickets de caisse, qui est présent dans plein de récipients vendus dans le commerce parce qu'il sert pour la conservation. Voilà, on sait de plus en plus les problèmes qu'il pose et il sera interdit qu'en 2015. Enfin, on voit le côté temporisation, ils sont toujours une logique progressive, laisser le temps aux industriels de réagir, pas trop affecter leurs profits, etc. Et oui, voilà, on sait depuis 2008 au moins qu'il est écotoxique et toxique. Et par ailleurs, bon, notre problème, c'est que même quand on arrive à faire remplacer un produit qui est dangereux, qui est toxique, etc., c'est qui va décider par quoi on le remplace ? C'est les industriels eux-mêmes. C'est eux, dans leur labo privé, qui vont mettre au point l'alternative, en mettant au point une nouvelle molécule qu'on ne connaît pas encore. On va faire sa connaissance au quotidien, en achetant nos produits, etc. Et voilà, peut-être que plus tard, on se rendra compte qu'il y a un autre problème, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de principe de précaution dans la société actuelle. Il ne peut pas y avoir de principe de précaution conséquent. Il y aura toujours un gros problème, c'est le capitalisme et la concurrence et le secret industriel. Voilà, pour résumer, les États ils font des lois toujours après coup, souvent d'ailleurs sous la pression de mobilisation, et une fois qu'ils sont assurés que ça ne nuit pas trop à la compétitivité de leurs propres capitalistes. Et il y a une lenteur vraiment phénoménale dans la réaction des capitalistes. Par exemple, moi au ministère, parce que je bosse au ministère de l'écologie, il y a des trucs assez hallucinants dans le jargon. Ça s'appelle la sévérisation progressive. C'est-à-dire que la réglementation écologique est prévue pour devenir de plus en plus sévère, parce que quand même, il faut réagir, mais progressive, quoi. Voilà. Sévérisation progressive, c'est le mot, la novlangue. Moi, je pourrais donner un exemple, mais je crois que je suis un peu en retard. Donc, après, pour balayer vite fait les autres courants écologiques, enfin, justement, pour parler des courants actuels en France, l'écologie à l'APS et l'UMP, elle existe, elle est portée par les ministères de l'écologie qui sont là. C'est une écologie qui s'inscrit parfaitement dans tous les mécanismes que je décris, qui est contrainte par ces marges-là et qui s'en contente. Et typiquement le Grenelle de l'environnement, c'était dans ce cadre-là, c'était beaucoup de grandes déclarations et puis à la fin beaucoup de lobbying pour atténuer tous les aspects un peu concrets qui s'appliqueraient, qui a été reprise par le PS, hein, parce que ça avait été fait par Sarko, mais nous au ministère on continue à être dans la même logique. Le PS se veut des fois, se prétend avoir une image plus verte. Alors deux exemples pour dire que c'est bidon, c'est les ministres de l'écologie. En 2012, après l'élection de Hollande, il y a eu Nicole Bricq qui a été virée en juin 2012. Pourquoi ? Parce qu'elle avait, quand elle est arrivée, elle a dit « Tiens, il y a des contrats pour la prospection pétrolière qui ont été accordés à Shell au large de la Guyane. Mais en fait, niveau impact écologique, ça a été bâclé, il faut qu'on étudie la chose, etc. » Alors, il y a eu à voir le patron de Shell qui a passé un coup de fil au supérieur de Madame Bricq et elle s'est fait dégager. Sa remplaçante, ça a été Delphine Bateau. Elle a été dégagée en juillet 2013, donc c'est rapide. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est plainte d'avoir un budget insuffisant. Elle disait que c'est le tournant de la rigueur qui ne dit pas son nom et qui prépare la marche au pouvoir de l'extrême droite dans notre pays, donc les grands mots. Et elle a ajouté « Est-il normal que le PDG de Vallourec ait annoncé ma fuite prochaine voilà des semaines ?» Donc, mon patron était plus au courant qu'elle du fait qu'elle avait plus sa place. Et en fait, bon, le problème, c'est que, voilà, pour parler des gens qui sont plus à gauche que le PS, quand on regarde les Verts, ils sont totalement intégrés, mouillés dans ce système, ils s'intègrent totalement. Le marchandage qu'on connaît là sur 25 députés contre le PS fait un effort et ferme 24 réacteurs nucléaires. Fondamentalement aussi, voilà, ça, il reste derrière les discours, ça reste une idéologie de vouloir relancer la croissance, de prôner un développement durable, une croissance verte, etc. On l'appelle sous les mots, mais en gros, c'est garder le fonctionnement de l'accumulation capitaliste et essayer de faire en sorte qu'il soit compatible avec l'écologie. Et ça, c'est pas juste parce que c'est une idéologie qui est dure à abandonner, c'est parce que dans le capitalisme, ils sont tenus par la croissance, c'est leur moteur. Donc voilà, je peux me donner un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, sinon, dans le cas du capitalisme, si on s'inscrit totalement dans le cas du capitalisme, comme le sont le PS et Europe Écologie, on n'a pas d'autre horizon que la relance de la croissance, en espérant du coup créer à la fois des emplois et à la fois de l'écologie, etc. Et donc, pour parler du front de gauche un petit peu, Mélenchon, il y a des termes un peu plus forts que ça, il parle de planification écologique. Alors, c'est un peu ambigu quand même, parce que comment on peut parler de planification écologique alors qu'on n'est pas pour prendre en main et pour exproprier les moyens de production ? Comment on veut planifier quoi que ce soit si on n'a pas le pouvoir de décider ? Comment on va dire, toi tu produis tant, etc., si c'est toujours des capitalistes qui décident derrière ? Donc en fait, derrière, si on analyse à la loupe leur programme, c'est toujours une logique de relance, c'est toujours une logique d'intervention de l'État, mais pour stimuler l'économie, quand il veut un pôle public de l'énergie, c'est ça, il n'y a pas dans le programme du Front de Gauche d'expropriation du secteur de l'énergie comme nous on le revendique. Il y a juste un pôle public, c'est-à-dire l'État qui prend une part plus grosse du capital, qui stimule, etc. Et donc c'est pour pousser les capitalistes à investir, mais gentiment. Et le problème, c'est que voilà, sans lutte de classe jusqu'à l'expropriation des investisseurs, il n'y aura pas d'investissement vert. Quoi. Il n'y aura pas c'est pas simplement des investissements qu'il nous faut, c'est une réorganisation, comme je le disais, de toute cette chaîne de production et de transport qui sont absurdes. Et ça, on ne le fera pas sans sortir de la logique du profit. Donc, voilà, pour conclure un peu sur la nécessité de la révolution, en gros, après ce qu'on a vu, la logique, nous, c'est pas d'inciter ou dissuader les patrons. C'est pas non plus, en fait, le terme d'interdiction, même, il marche pas, parce que c'est pas, nous, on n'est pas pour être un État qui prend le pouvoir politique et qui est au-dessus de l'économie et qui va défendre l'intérêt général. On n'est pas là pour interdire des choses aux grands patrons. On est là pour... On est là pour qu'il n'y ait plus de grands patrons. Donc le seul moyen, c'est que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui démocratiquement fassent ce qui est le plus logique. Et donc, à la fois qu'ils répondent à leurs besoins, c'est quand même la base pour des anticapitalistes, et ça, ils peuvent le faire qu'en fonction de ce qu'il est possible de faire. Donc en intégrant le cadre du climat, de la nécessité de réduire les rejets de gaz à effet de serre et de prendre en compte le fait que les ressources sont pas infinies. Donc il faut arriver à avoir donc une économie durable dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire pas forcément en développement, on n'est pas pour que ça croisse sans arrêt, mais que ça soit durable dans le sens où voilà, on soit capable de ce qu'on produit de le recycler et donc essayer d'avoir moins besoin de les jeter et tout ce qui s'ensuit. Quelques pistes très rapidement, donc on pourrait supprimer déjà des secteurs entiers. Hein, qui a besoin voilà, de la publicité, des traders, des mutuelles privées, enfin, il y a plein de secteurs qu'on pourrait supprimer. Mais par ailleurs, même en raisonnant par type de produit, il y a plein de gammes. Aujourd'hui, il y a des gammes pour les riches et des gammes pour les pauvres. Il y a des produits que seules les minorités de la population peuvent acheter. Et souvent, par exemple, les produits les moins polluants sont les plus chers. Bon, ça, c'est un truc totalement aberrant. Si on prenait les moyens de production, pourquoi on ferait ça ? Simplement, qui serait pour ça, alors qu'on pourrait décider tout simplement d'arrêter de produire ce qui est trop polluant ? On ne produit que ce qui est le moins énergivore. Et la répartition des richesses, elle doit aussi servir à ça, à se permettre que tout le monde puisse acheter ça. les produits doivent être conçus pour et pourront être conçus pour durer. On pourra faire un service public de la réparation. C'est pas rentable forcément de réparer des trucs, mais on s'en fout. Nous, il faut y mettre les moyens qu'il faut pour que ça se passe. Prenez aussi, mettre en place un service public pour qu'il y ait des consignes qui puissent se faire. Un truc qui d'ailleurs existait un petit peu partiellement, mais qui a beaucoup été laminé par le capitalisme. Puis réorganiser les transports, hein, on peut faire plein de trucs, hein, rapprocher certaines usines qui sont perdues en dehors de tout moyen de transport, qui sont accessibles que par des camions, soit mettre des chemins de fer à côté, soit rapprocher l'usine des chemins de fer, enfin on se démerde. On peut faire des relocalisations partielles, c'est-à-dire par exemple, si on estime que c'est idiot d'avoir tel produit qui traverse l'Atlantique et qu'on pourrait le produire en Europe, on peut rajouter une usine en Europe. Dans ce cas-là, ça revient à faire baisser le niveau de pollution, par exemple. Après, ça n'a rien à voir, cette logique-là, avec une logique nationaliste. Parce que, par exemple, si on a un mouvement des travailleurs qui est en train de prendre les usines et les entreprises du CAC 40 en France, c'est évident que leurs filiales qui sont dans d'autres pays, nous, on est pour s'adresser aux travailleurs des autres pays. Nous, ces usines-là, nous, on ne va pas vous les reprendre. Utilisez-les pour vos besoins à vous. Je veux dire, on s'en fout de la propriété du capital telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est organisée comme une ramification qui pompe les richesses des autres pays. On sort de ça, quoi. Transport de personnes, on est pour le développement des transports en commun, mais c'est aussi plus largement, si on fait par exemple un grand réseau de logements publics, on pourra habiter pas à l'opposé de son lieu de travail. On pourra diminuer le besoin en transport, donc. Le chauffage, on pourra mettre tout l'argent qu'il faut dans l'isolation des bâtiments. Aujourd'hui, c'est quand même un gros problème du capitalisme que on met des aides pour isoler les bâtiments. Mais paradoxalement, c'est que les classes les plus aisées qui peuvent se permettre de le faire. Donc en fait, ça revient à subventionner ceux qui déjà peuvent se le payer. Et ceux qui ne peuvent de toute façon pas se le payer, ne le feront pas même avec l'aide. Donc, en fait, et surtout, on n'atteint pas l'échelle de masse qu'il faudrait pour que ça ait un impact, quoi. C'est ça le gros problème. Une fois qu'on a réduit en amont tout ce qui pouvait être réduit, les besoins énergétiques qui peuvent rester, évidemment qu'on peut aussi développer les énergies renouvelables sous toutes ces formes, quoi. Soit le solaire thermique ou photovoltaïque, la géothermie, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse, en fonction des potentialités locales, quoi, de ce qui est le mieux. Il n'y a pas forcément de schéma unique là-dessus, contrairement à la production d'énergie comme elle est actuellement. Il faut bien voir qu'il y a les deux aspects. Il y a d'abord réduire l'immense gâchis dans la production, et ensuite le besoin qui reste, on le produit de façon plus propre. Et juste pour finir sur les quelques luttes qu'il peut y avoir dans le secteur écologique, spécifique on va dire, en France il y a eu pas mal de luttes par exemple contre des incinérateurs, parce que localement quand il y a un projet de construire un nouvel incinérateur, la population sait qu'il y a des dangers pour la santé, avec la dioxine par exemple, etc. Donc il y a une tendance à être contre. Alors, certains vont dire, c'est juste parce qu'ils n'en veulent pas chez eux, mais au fond, on en a besoin, etc. Mais nous, on va contrer ce discours aussi en disant qu'aujourd'hui, il y a un tiers des déchets en France qui sont incinérés. C'est absurde, au fond, on brûle, alors que la plupart de ces matériaux, on l'a vu pour le plastique, sont dans l'absolu recyclables. Et dans l'absolu, ils auraient pu ne pas être jetés si on n'avait pas cette obsolescence générale. Donc, nous, on est là pour dire aussi que la légitimité des gens qui luttent localement pour un petit truc qui peut paraître à l'échelle micro, c'est une légitimité, et ça doit s'inscrire dans une remise en cause plus globale des choix qui sont faits par le système capitaliste. Je ne reviens pas trop sur Notre-Dame-des-Landes, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. C'est la même logique, on a raison d'être contre un nouvel aéroport, parce que c'est pas ça, vu les contraintes, vu les problèmes de gaz à effet de serre qu'il y a aujourd'hui, c'est pas ça dont on a besoin, quoi. Les luttes antinucléaires aussi, quand à Bure par exemple les camarades luttent contre l'enfouissement des déchets nucléaires dans leur sous-sol, ils ont évidemment raison de le faire, non seulement parce qu'on est pour sortir du nucléaire, mais aussi parce que même les déchets nucléaires qui sont là, qu'on a sur les bras, c'est totalement irresponsable d'aller les cacher au plus profond pour qu'on les voit plus et qu'on ait la conscience tranquille, quoi. Juste pour finir sur un pays où les luttes écologiques sont assez à la fois actuelles et à la fois assez connectées aux conditions de vie des travailleurs, c'est la Chine, où par exemple, En 2004, il y avait eu un recensement qui avait eu 51 000 conflits liés à la dégradation de l'environnement. Et très souvent, il y a des villages du cancer, c'est le nom que certains militants donnent à ça. Par exemple, il y a tellement d'usines polluantes concentrées avec les travailleurs qui vivent à côté. Là, on a un peu le schéma qu'il y avait en Europe au 19e siècle et au début du 20e, où voilà, les travailleurs ont directement, en direct, les conséquences de la production polluante. Et ils la subissent directement. Donc leur lutte, en général, qui est contre leur exploiteur, elle est totalement confondue avec la lutte avec le pollueur, quoi. Et donc, en Chine, c'est vraiment massif. Hein. Non seulement il y a des villages du cancer, mais il y a 90% des villes qui ont leur nappe d'eau polluée. Ces luttes, juste pour finir, il y avait le ministre de l'Environnement, donc je crois que c'est, je ne sais pas s'il a changé entre-temps, mais c'était en 2004, qui disait que l'environnement est devenu une question sociale qui stimule les contradictions sociales. Donc ça, c'est parce que ils faisaient le constat, enfin les bureaucrates là-bas font le constat que ceux qui luttent sont c'est directement pour leurs propres conditions de vie et de survie. Donc là-bas, c'est totalement entremêlé avec la question sociale. Donc ce ministre de l'environnement qui dit ça, donnant lui raison, essayons de fusionner les luttes écologiques et sociales en leur donnant comme point commun d'ennemi commun le capitalisme. Et donc sa logique de destruction généralisée.